Infos à Washington.
Au micro, Nani Toutalani, 13h à Ouagadougou, et bienvenue à ce journal. Les autorités sud-africaines ont interdit ce mardi l'entrée sur leur territoire à un prédicateur chrétien américain dont les propos homophobes ont suscité une levée de boucliers de la communauté gay sud-africaine qui s'était mobilisée contre sa venue. Steven Anderson de la Faithful World Baptist Church dans l'état d'Arizona était attendu ce week-end en Afrique du Sud, où il comptait conquérir des âmes. Sa visite avait suscité un tollé et une pétition en ligne contre sa venue avait recueilli plus de 60 000 signatures. « Nous avons le devoir d'éviter tout préjudice et toute manifestation de haine, quelle que soit sa forme, contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels », a précisé le ministre de l'Intérieur, Malusi Gigaba. Le prédicateur Anderson suscite régulièrement la controverse. Il a notamment qualifié les homosexuels de pédophiles. Et en 2009, il avait prié pour la mort du président américain Barack Obama en raison de ses convictions pro-avortement. Le rapport qui accuse l'élite sud-politique et militaire du Soudan du Sud de s'être enrichie en profitant de la guerre civile qui ravage le pays depuis décembre 2013 est de la foutaise absolue, a réagi ce mardi le gouvernement sud-soudanais. Le rapport a été publié hier par le groupe d'investigation The Century, dont l'acteur américain George Clooney est le cofondateur. D'après The Century, les familles des élites sud-soudanaises vivent souvent à l'étranger, dans des villas de luxe de plusieurs millions de dollars, passent leurs vacances dans des hôtels 5 étoiles et récoltent les bénéfices de ce qui semble être un système de népotisme et de contrats douteux. Le principal catalyseur de la guerre est en fait la compétition pour le contrôle des abondantes ressources naturelles du pays, notamment le pétrole, affirme encore ce rapport. Mais pour le porte-parole de la présidence sud-soudanaise, Atheni Wek Atheni, le rapport est trompeur et motivé politiquement pour ternir l'image du président Salva Kiir et celle du général Paul Malang, le chef d'état-major de l'armée gouvernementale, ainsi que celle des généraux qui luttent pour le bien-être du Soudan du Sud. Suite aux violences post-électorales au Gabon ayant fait plusieurs morts et de nombreux blessés, la société civile par la voix du collectif Tournons la page, demande une enquête internationale. Écoutons le coordonnateur du collectif Tournons la page du Gabon, Marc Ona Essangui.
Nous avons des parents qui viennent vers nous et qui sont à la recherche de leurs enfants. Beaucoup ont retrouvé leurs parents dans les maisons de pompes funèbres. D'autres sont toujours à la recherche et d'autres ont été emprisonnés. Donc, les chiffres avancés par le gouvernement sont excessivement en deçà de la réalité. Sur toutes les années du territoire, nous avoisinons la centaine de morts. Le soir même de l'assaut, les informations que nous avons eues, des témoignages, des éléments à l'intérieur du pouvoir et qui nous ont certifié qu'à l'infirmerie de la garde républicaine, 17 corps ont été déposés là-bas. 17 corps ont été déposés. Or, c'est la garde républicaine qui avait lancé l'assaut. À partir de cet instant, tous ces corps ont été déposés dans une morgue Kasebga. Et aujourd'hui, les parents sont en train, effectivement, d'aller retrouver leurs morts à Kasebga. Ça veut tout simplement dire que le nombre de morts annoncés par le pouvoir pendant l'assaut, ce nombre n'est pas conforme à la réalité.
C'était Marc Ona Essangui du collectif Tournons la page Gabon. Dialogue politique en RDC, l'opposition suspend sa participation aux travaux en commission. Dans sa déclaration hier lundi à Kinshasa, le co-modérateur Vital Kamerhe a annoncé que sa délégation ne reviendra au dialogue que si la priorité est donnée à la présidentielle, comme le veut la résolution 2277 des Nations Unies. En réaction, la majorité présidentielle accuse l'opposition de faire monter les enchères. Selon le sénateur Chez Okitundu, chef de la délégation du camp présidentiel au dialogue, sa famille politique maintient sa position de commencer par les élections locales pour terminer par la présidentielle.
Notre pays a opté pour le régionalisme constitutionnel et par conséquent, la décentralisation a été inscrite dans la Constitution et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a dernièrement étendu l'extension de cette décentralisation. On est aujourd'hui à 25 provinces et la ville de Kinshasa. Alors, ces provinces ne doivent pas continuer à fonctionner sous forme de nomination des gouvernants. Il faudrait que les élections aient lieu. C'est pour ça que nous accordons une grande importance aux élections locales. Et en partant aussi de l'idée que toutes les élections se valent. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'élection présidentielle est la plus importante que les élections locales dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ça, c'est la position de la majorité. Mais maintenant, pour l'opposition, l'opposition estime qu'il faut commencer par les présidentielles et c'est le point d'achoppement avec l'opposition. Je n'ai pas particulièrement participé à la commission électorale, mais on a appris qu'ils ont suspendu leur participation. Mais je crois qu'à mon avis, c'est une tactique de négociation.
Le sénateur chez Okitundu était au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. En Libye, les États-Unis et 5 de leurs principaux alliés en Europe ont condamné ensemble lundi la prise de contrôle d'un troisième terminal pétrolier par les autorités rivales du gouvernement reconnu par l'ONU basé dans l'est du pays. Washington et ses alliés européens insistent sur le fait que le pétrole appartient au peuple libyen et doit par conséquent être administré par le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU basé à Tripoli.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La trêve en Syrie, présentée comme la dernière chance pour sortir le pays du chaos, était globalement respectée ce mardi. Les habitants dans plusieurs villes se félicitant d'avoir connu leur première nuit depuis des mois. L'arrêt des combats devra ainsi permettre l'envoi d'aides humanitaires urgentes aux centaines de milliers de personnes vivant dans les zones assiégées, notamment la partie rebelle d'Alep. Claire Morin-Gibour a joint Thomas Pierret, auteur de plusieurs ouvrages sur la Syrie, pour lui demander son sentiment sur ce nouveau cessez-le-feu en Syrie.
Beaucoup de scepticisme, pour être honnête, pour deux raisons. La première, c'est que le cessez-le-feu, comme le précédent proclamé en février, ne prévoit pas de mécanisme clair pour faire observer donc le cessez-le-feu par les parties en présence, et particulièrement par le régime syrien, qui, on s'en souvient, en février dernier, n'avait jamais mis en œuvre le cessez-le-feu dans certaines régions. Donc il l'avait observé dans certaines provinces, mais dans d'autres, comme à Damas ou à Latakia, c'était resté lettre morte. Et il n'y avait aucun mécanisme prévu dans cet accord pour le faire respecter. On n'a pas l'impression que les choses soient différentes cette fois-ci, donc c'est une première raison d'être sceptique. La deuxième, c'est dans la conception plus globale de l'accord, alors qu'il n'est pas qu'un accord de cessez-le-feu, puisqu'il est aussi question d'opérations militaires communes russo-américaines, non seulement contre l'État islamique, mais aussi contre le front Fatah al-Sham, ex-front al-Nusra, donc la branche d'Al-Qaïda en Syrie, qui est une des principales factions combattant le régime syrien. Et alors là, on a un problème qui est qu'on demande dans l'accord aux autres groupes rebelles de se retirer des zones où combat le Fatah al-Sham, et avec ce risque qui est que si ces groupes rebelles se séparent de cette organisation, que cette dernière est bombardée par les Américains et les Russes et qu'elle est affaiblie, cela crée un vide qui serait assez certainement rempli par les forces du régime. Donc on demanderait finalement aux rebelles d'abandonner de nouveaux territoires au régime alors que celui-ci est plutôt sur l'offensive actuellement.
Sans oublier la fracassante sortie médiatique de Bachar el-Assad qui dit qu'il veut récupérer la majorité du territoire.
Effectivement, donc évidemment le signe qui est envoyé ici n'est pas très positif. Et encore une fois, il n'y a aucun mécanisme qui soit prévu pour, je dirais, mettre un frein à ses ambitions. Alors, a priori, il semblerait qu'il y ait une clause dans l'accord qui affirme que le régime syrien ne doit pas exploiter l'affaiblissement de Fatah al-Sham pour reprendre des territoires. Le problème, c'est qu'il semble qu'il n'y ait aucun mécanisme tangible pour empêcher ça. Donc, finalement, la bonne application de l'accord repose, un, sur la bonne volonté russe de limiter les ambitions de leur allié syrien. On a quand même le droit d'être extrêmement sceptique par rapport à ça. Et d'autre part, ça pourrait reposer sur des lignes rouges américaines. On en connaît la crédibilité. Et les Américains ne semblent pas décider à taper du poing sur la table ou à sanctionner le régime syrien en cas de non-observation de l'accord. Donc tout cela fait qu'on peut être extrêmement sceptique par rapport à cet accord de cessez-le-feu.
Thomas Pierret, maître de conférence à l'Université d'Édimbourg, est spécialiste de la Syrie. Hillary Clinton, soignée pour une pneumonie, reprendra la campagne présidentielle cette semaine et Barack Obama interviendra ce mardi lors d'un meeting de soutien à la candidate démocrate à Philadelphie. Le candidat républicain Donald Trump, lui, s'est bien gardé d'attaquer Madame Clinton concernant sa santé. Il a préféré plutôt se concentrer sur les propos controversés tenus la semaine dernière par la candidate démocrate Timothée Donangmai.
Madame Hillary Clinton avait qualifié vendredi la moitié des partisans de Donald Trump de pitoyables, de racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes. Lors d'une halte électorale lundi à Baltimore, dans l'État du Maryland, le candidat républicain a dit être profondément choqué d'entendre son adversaire attaquer, calomnier et dénigrer ses partisans.
I was thus deeply shocked and alarmed this Friday to hear my opponent attack, slander,
La Turquie a officiellement demandé aux États-Unis d'arrêter le prédicateur en exil Fethullah Gulen, qu'elle accuse d'avoir organisé un putsch manqué du 15 juillet, et a rapporté aujourd'hui une télévision turque. Fethullah Gulen, bien sûr, a démenti être lié à la tentative de coup d'État. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure dans 50 minutes, mais restez branchés sur la Voix de l'Amérique.
Et n'oubliez pas notre page Facebook. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.